comme on se disait, on voulait aussi parler de médiation et voir un peu, avec une médiatrice, parce que, tu sais, des fois, avant d'en arriver aux frais d'avocat, là, qui te coûtent une beurrée puis tout ça, il y a d'autres choses qu'on peut faire, il y a peut-être d'autres façons de travailler, puis on va aller voir la médiatrice qui s'appelle Anne-Marie Thérien, elle travaille au Centre de médiation Iris. Bonjour, Mme Thérien, ça va bien?
Ben oui, ça va bien, vous?
Ben oui, ça va super bien. Ce matin, on va parler de votre travail. Peut-être dans un premier temps, les services de médiation familiale s'adressent à qui précisément et dans quel contexte?
Ben, ça s'adresse certainement aux conjoints qui ont pris la décision de se séparer. Ça s'adresse assez à ceux qui sont déjà séparés aussi. Il y a maintenant un programme de médiation subventionné pour les conjoints qui n'ont plus d'enfants à charge ou qui n'ont jamais eu d'enfants à charge. Donc, ça s'adresse aussi aux familles. Le ministère de la Justice donne 5 heures de médiation gratuite pour tenter de trouver des solutions en médiation. Alors, c'est un programme qui permet aux conjoints de se responsabiliser dans la prise de décision. Vous avez dit d'entrée de jeu que ça peut coûter une fortune d'aller devant les tribunaux, payer des avocats. Et c'est surtout à ce moment-là le juge qui va prendre la décision au nom des deux parents. En médiation, c'est les parents qui prennent les décisions. Évidemment, ça implique qu'ils doivent se parler, s'écouter, surtout parce que c'est ça que non. Les parents font plus au moment de la séparation, hein, écouter l'autre.
Effectivement, ça arrive souvent. Puis là, il y a un premier rendez-vous. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça prend plus qu'un rendez-vous? Des fois, tout de suite, après un premier rendez-vous, on peut en arriver à une décision?
Ben, les rendez-vous se passent différemment selon là où sont rendus les conjoints.
Okay.
Il y a des conjoints que je rencontre qui ont pris la décision de se séparer la semaine d'avant. À ce moment-là, la première rencontre, c'est une prise de contact. J'explique aux conjoints c'est quoi la médiation, qu'est-ce que ça peut faire pour eux, comment ça se déroule. Et je fais avec eux le tour de leur situation familiale, conjugale, pour identifier les questions qui seraient à discuter. Cette première rencontre-là me permet de leur donner de l'information juridique sur leur situation. Ça me permet aussi de répondre à leurs inquiétudes, à leurs questions, qui des fois vont dégénérer. Hein. Ces inquiétudes-là se transforment souvent en méfiance, en absence de confiance, puis ça active, puis ça mène, ça provoque des conflits. Pour les gens qui sont séparés depuis longtemps, il y en a qui arrivent à mon bureau, ils sont déjà séparés depuis plusieurs mois, des fois depuis un an ou deux. À ce moment-là, on fait le tour de ce qu'ils ont réglé, puis on peut améliorer, bonifier les ententes pour s'assurer que la communication va bien se passer, que les échanges entre les parents vont bien se faire.
Et là, ben souvent, parfois, il y a des histoires de garde familiale lorsqu'il y a des jeunes enfants. Je pense que, je présume, des fois, il y a une médiation pour s'entendre sur probablement des montants d'argent par rapport aux enfants. Aussi, il doit y avoir des moments où c'est sur la garde, parce qu'on a souvent de la difficulté à s'entendre sur la fameuse garde. Des fois, on a des papas, on voit les... je me rappelle pas du nom du groupe, là, mais tu sais, ils montent dans... Ils vont aller monter... Oui, c'est ça. Ils vont aller monter dans un édifice ou sur un pont parce qu'ils trouvent que le système de justice est plus favorable à la maman qu'au papa. Avec la médiation, comment c'est abordé tout ça, le droit du, mettons, de la mère et du père vis-à-vis des enfants?
Bien, déjà, la médiation va tourner autour des besoins de l'enfant, beaucoup. Moi, je ramène les parents à leur tâche de parents par rapport à leurs enfants. Mais ce que vous nommez les conflits de garde sont de plus en plus fréquents parce que ce que j'observe dans ma pratique, c'est que les ruptures arrivent de plus en plus rapidement dans les couples. On voit des jeunes enfants de moins de 3 ans qui sont impliqués par leurs parents dans une séparation. Ça soulève le défi de s'entendre sur comment on va se répartir le temps des enfants d'une maison à l'autre. Les plus petits enfants ont pas la même structure, je dirais le développement psychosocial des plus vieux. Ils ont pas la notion du temps. Donc, faut prendre soin des besoins de l'enfant dans une entente de garde. Un petit enfant n'a pas la notion du temps. Si on lui dit « tu vas voir ton père la semaine prochaine », ça lui dit pas grand-chose.
Non, exact.
il faut rassurer cet enfant-là qui va être en mesure de voir ses deux parents de façon régulière pour pouvoir bâtir un lien d'attachement. C'est comme ça que j'aborde la question avec les parents des jeunes enfants qui ont souvent pas beaucoup d'expérience de vie commune pour bâtir la confiance que ça prend pour bien s'occuper d'un enfant. Donc, des fois, la médiation elle permet de jeter les bases d'une entente, d'un plan parental qui va permettre aux deux parents de pouvoir être en contact avec l'enfant puis permettre à l'enfant de bien se développer dans cette situation de séparation.
Comment qu'on fait pour gérer les parents réfractaires? Parce que veut pas, dans les relations de couple, des fois, puis tu sais, j'ai de la misère à m'expliquer ça, mais je peux comprendre le côté protectionniste du parent, mais donc le papa qui dit c'est pas vrai que le nouveau conjoint de madame va être là en présence de l'enfant ou encore vice-versa. On gère ça comment? Est-ce qu'on peut empêcher un nouveau conjoint de voir l'enfant?
Bien, dans ces situations-là, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup d'inconnus, puis il y a beaucoup de manque de confiance. Il faut rebâtir tout ça, il faut rebâtir les ponts. Les ruptures arrivent vite et les reconstitutions de couple, là, les familles se reforment rapidement dans des nouveaux couples, avec des nouveaux couples. Et ça a un impact sur les enfants. C'est une question qui est importante de discuter entre parents. Okay. À quel point l'enfant va être... sa vie va être bonifiée par ce nouveau conjoint-là, puis à quel point c'est peut-être pas si précis que ce nouveau conjoint-là rentre dans la vie. Ça, c'est fonction des besoins de chaque enfant. Ces questions-là, quand elles sont discutées devant un juge, ben on n'a pas vraiment accès à ce qui est nécessaire pour les enfants, les besoins de chaque parent, alors qu'en médiation, on est autour d'une table chacun peut s'ouvrir, puis chacun peut dire c'est quoi ses besoins, puis on peut à deux établir c'est quoi les besoins de notre enfant là-dedans. Les malentendus qui s'installent, les gestes un peu gauches qui sont posés sont souvent le fruit d'une peur, d'une vengeance, d'une inquiétude. Et ça, on peut des fois dénouer ces impasses-là dans le bureau du médiateur. Mais c'est en se parlant qu'on réussit à trouver des solutions. Certainement pas en s'envoyant des procédures par le biais d'avocats. Ça réglera pas des malentendus entre conjoints. Ça va juste attiser les conflits qui vont devenir très cristallisés.
Pour rester dans le cas des enfants, s'ils sont plus vieux, est-ce que ça peut arriver? Je suis pas moins jeune de 13-14 ans qu'on va, comme à un moment donné, l'inclure dans la médiation pour savoir, lui, il veut quoi là, pour l'école? Tu sais, est-ce qu'il est mieux chez papa, chez maman? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver, ça?
Ça peut arriver. Mon premier geste, c'est de voir qu'est-ce que les parents reçoivent comme information de l'enfant. Il est pas rare que l'enfant qui est mêlé dans un conflit va dire une chose à un parent puis une autre chose à l'autre parent. Ça, quand on est autour de la table puis on l'entend, on se le dit, puis on réalise que l'enfant, il veut pas déplaire à ni un ni l'autre. Donc, il dit pas la même chose à chaque parent. On peut peut-être à ce moment-là faire avancer les conversations qu'on a avec l'enfant. Il m'est arrivé de rencontrer des jeunes, mais c'est vraiment dans des situations où les parents ont aucune idée de ce que l'enfant pense réellement. Parce que, habituellement, les parents qui ont vu grandir un enfant depuis 13 ans, parce que c'est l'âge que vous me donnez, ils ont une bonne idée de ce que sont ses besoins. Ils ont une bonne idée de ce qui serait le mieux pour lui. Ils savent pas vraiment, ils sont pas dans un climat propice pour trouver une entente, mais si on écrit ce climat propice-là, ils sont capables de trouver des solutions pour leur enfant.
Oui. Et Mme Thérien, dans les... on a beaucoup parlé des enfants parce que souvent la médiation... souvent dans une séparation, la grosse cause de discorde, bien souvent, c'est les enfants. Mais mettons les enfants de côté, est-ce que vous avez des couples qui sont sans enfants, qui vont vous voir? Puis là, on sait que malheureusement, souvent, la grosse source de discorde, des fois, c'est l'argent ou la façon qu'on va gérer la suite des biens. Vous devez faire face à ça aussi, je présume.
Évidemment, quand il n'y a pas d'enfants, ben on parle d'argent pur. Quand il y a des enfants, des fois, la chicane d'argent se glisse vers les enfants. On utilise les enfants pour régler l'argent. Mais quand il n'y a pas d'enfants puis qu'on est vraiment sur des questions d'argent, Il n'est pas rare que ce que j'observe sur le terrain, que c'est la perception de l'un et la perception de l'autre. Des fois, quand chacun a l'opportunité de dire vraiment ce qu'il veut, ce qu'il a besoin, puis que chacun peut entendre ce que l'autre a besoin, on trouve une solution. Les règles finissent par s'établir d'elles-mêmes. C'est quand on part avec notre impression, notre dossier, notre demande, puis qu'on le porte là avec toute la force que le système judiciaire peut nous donner, que ça dégénère, que finalement des chicanes de 100 piastres deviennent des chicanes de 25 000 piastres avec les frais d'avocat. Il y a des fois où les conjoints sont vraiment positionnés. À ce moment-là, il faut que je lance la serviette. Là, je suis pas là pour faire plier des genoux ou tordre des bras. Les gens doivent être conscients qu'ils sont responsables de trouver ensemble les solutions.
Fait que là, dans ce temps-là, ils n'ont pas le choix. Ça passe aux avocats, puis ça va devant le juge.
Je voudrais pas qu'il y ait une injustice qui se commette dans mon bureau juste pour le profit d'une entente ou pour le bénéfice de la paix sociale. Des fois, ça arrive que la médiation n'est pas le bon moyen. Des fois, il y a un conjoint qui va être dominant, qui va imposer ses vues à l'autre, ou qui va utiliser le chantage pour faire plier les genoux de l'autre. Ça, quand je peux pas traverser ce mur-là, ben je les retourne devant le juge. Puis là, à ce moment-là, le juge, lui, peut décider à la place des conjoints parce qu'il n'y a pas de solution possible.
Mme Thérien, vous diriez que c'est quoi? C'est 60 % des cas, 70 % qu'on réussit à régler en médiation ou ça peut tourner autour de quoi?
Moi, je vous dirais que dans mon bureau, je suis à plus de 80 %
Ah oui? Ah, mais c'est bon.
Les gens qui décident de venir en médiation ont déjà un point marqué, là. Ça veut dire qu'ils ont déjà le courage de dire, bon, ben, on va essayer de trouver une solution. Des fois, j'ai des gens qui viennent après avoir été lavés par le système judiciaire, par leurs frais juridiques. Puis là, ils sont un peu résignés. Puis on commence vraiment la discussion. Okay. Puis on commence à chercher des solutions. Puis à s'ouvrir sur des solutions auxquelles on n'avait peut-être pas pensé. Puis qui permettent d'arriver à un accord qui convient aux deux parents.
Prendre le temps de s'écouter, hein, je pense que c'est ça la grosse problématique.
Mais ça semble simple.
Oui.
Mais des fois, c'est pas si simple. Parce que une rupture, c'est une crise. Hein. C'est des fois, dans une crise, on perd accès à son cerveau. On est en situation vulnérable, on a peur, on est inquiet. Puis là, ben, toute l'histoire du couple se revit dans la rupture. Hein. T'es comme ça, j'ai pas confiance, tu vas faire ça, je sais que tu vas dire ça. C'est tout ça.
Comme on dit, les petites crottes sur le cœur ressortent.
Dans la médiation, puis repartir sur des nouvelles bases. Ça se fait pas toujours en claquant des doigts, mais on réussit à le faire. Quand tu as des enfants, l'enjeu est extrêmement intéressant parce que là, c'est leur bonheur qui est en jeu. Quand tu n'as plus d'enfants, ben là, c'est les petits-enfants, ou quand tu n'as jamais eu d'enfants, là, je vous dirais que c'est plus difficile. Mais des fois, c'est de rester en paix parce que vivre dans la colère, vivre dans le conflit, ça peut créer ça a des effets secondaires, là. Ça peut... on entend des fois des collègues de travail qui ont vécu une rupture difficile, qui sont complètement à terre. Mm-hmm. Ça vient s'imprégner dans toutes les sphères de notre vie, là. Ça nous mine, je pense.
Exactement. Bien, Mme Thérien, je vous remercie beaucoup.
Bien, vous êtes bienvenue.
C'est fort intéressant, puis peut-être à un moment donné, on se reprendra avec des petites questions plus précises ou plus pointues. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont des idées, ils peuvent nous envoyer ça, puis on pourra peut-être faire à un moment donné, là, après les fêtes, une autre entrevue, si vous le voulez bien.
Bien, ça me fera plaisir.
Excellent, merci beaucoup.
Bonne journée.
Anne-Marie Thérien, médiatrice au Centre de médiation Iris. Des fois, ben, on parle souvent, tu sais, des frais d'avocat, mais avant d'aller vers un avocat, des fois, s'il y a de la bonne volonté des deux côtés, ça peut valoir la peine là, d'essayer la médiation ou dans des situations où c'est un petit peu plus difficile, mais qu'on sait que les deux côtés veulent en arriver à un règlement.
Faut surtout s'assurer aussi, comme tu dis, que les deux côtés veulent le faire, parce que si un